Hello, salut, comment ça va?
Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteur du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète ? Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète, un nouvel épisode consacré à l'objectif du développement durable numéro 17, celui qui prône les alliances et les partenariats. C'est presque le point d'entrée obligatoire si on veut pouvoir réaliser les 16 autres, parce qu'on sait bien qu'à tous, on peut tout. Cette semaine, je vous emmène donc en Auvergne-Rhône-Alpes, du côté de Clermont-Ferrand, pour essayer de comprendre, au travers d'une expérimentation qui a été portée pendant 3 ans par l'association Le Rameau, qui est un laboratoire de recherche empirique sur l'objectif du développement durable 17.
Et en partenariat avec la fondation RTE, et plus particulièrement son délégué général, Frédéric Dollet,
comment celui-ci pouvait prendre corps dans un territoire. Et c'est donc à Clermont-Ferrand et dans les alentours que Le Rameau a posé, quelques jours avant le confinement, ses valises pour essayer de mieux comprendre comment les différents acteurs du territoire pouvaient faire alliance, mais surtout quelle était la place des entreprises, comment les acteurs public, comment les associations, comment le monde académique pouvaient travailler ensemble et comment le monde de l'entreprise, des TPE, PME de ces territoires pouvait collaborer à améliorer, à développer son territoire. Alors bien évidemment, la difficulté qui se présente, c'est de faire prendre conscience aux entreprises qu'elles ont un impact. Et c'est d'ailleurs ce que m'a dit Charles-Benoît Hetzig quand je l'ai vu pour la première fois. Charles-Benoît Hetzig, qui est le fondateur du Rameau, c'était à côté de la gare de Lyon, dans un restaurant. Nous nous retrouvions pour la première fois. Il essayait de m'expliquer ce qui s'était passé et pourquoi ils avaient choisi ce territoire de Clermont-Ferrand. Je vous laisse entendre sa réponse qui pose le décor de cet épisode.
Comment est-ce qu'on va faire ? On mobilise des PME territoriales, les grands groupes, pas de problème, mais comment on mobilise les territoires ? Je dis, Frédéric, Castantienne, dans le cadre des expérimentations qu'on lance maintenant, lançons une expérimentation, et je lui dis, ça tombe très bien, je viens d'intervenir pour l'ANPP à Clermont, j'ai trouvé que ce territoire était absolument passionnant, le discours est du maire parlant justement des liens avec les acteurs économiques, notamment de Michelin. Et si on faisait l'expérimentation à Clermont ? Il me dit, ça me paraît très bien, parce que le Massif Central, c'est une réalité complexe, donc on va à Clermont. Et on décide d'avoir 3 leviers. Le premier levier, c'est d'abord de croiser des catalyseurs territoriaux différents. Donc, un provenant du monde public, le PETR de Clermont, qui était celui qui était la force invitante au colloque où j'avais été 6 mois avant, de l'acteur académique AgroParisTech, la chaire Interaction et AgroParisTech, qui a la chance d'être basée sur Clermont. 3, un acteur de l'ESS, Ronalpia, qui est pour moi un des catalyseurs territoriaux les plus innovants dans sa capacité à faire du lien dans le territoire. Et 4, un acteur économique, l'agence de développement Maceo, malheureusement feu Maceo, mais qui a été une agence de développement, l'agence centrale de développement du Massif Central pendant 40 ans.
On fait cette réunion de lancement le 10 mars 2009. On réunit les 4 catalyseurs, d'accord, PETR,
AgroParisTech,
AgroParisTech, l'agence de développement. Super réunion, en disant mais c'est génial, c'est la première fois que je vois truc, on ne s'était pas rendu compte, et on leur dit à la fin, et vous avez vu que les entreprises, vous n'en avez pas parlé. À la limite, la seule chose dont vous avez parlé dans leur entreprise, c'est que vous avez dit éventuellement qu'elle pouvait faire un peu de mécénat de compétences, de trucs, mais l'entreprise, en tant qu'acteur de développement de votre territoire, zéro dans votre analyse. Donc, quelque part, entre-temps, la Covid arrive, les contrats de relance et de transition écologique se posent, on soutient l'ANPP, territoire de projet, dans toute la dimension de qu'est-ce que c'est qu'un projet de territoire, c'est pas seulement une contractualisation entre l'État et les collectivités, ça doit après être mis en œuvre, etc. Il faut qu'il y ait une mise en œuvre, il faut qu'il y ait un dialogue avec les acteurs économiques locaux, et donc quelque part, là, on a une fenêtre de tir pour nous. Et donc on propose au PETR du Grand Clermont de leur dire, et vous, est-ce que ça vous intéresse, la mobilisation des PME de votre territoire?
Et là, miracle pour le rameau, il y avait un territoire à observer et à expérimenter. Ceci étant, à l'issue de ce repas, quand je suis rentré chez moi, je me suis posé la question de savoir ce qu'était exactement l'objectif du développement durable 17 et en quoi il était si pertinent pour la réalisation de l'agenda 2030. Alors, plutôt que de retourner voir Charles Benoît, je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir retrouver dans mes archives quelques enregistrements où Charles Benoît donne une définition de cet objectif du développement durable 17. Et banco, je retombe sur un enregistrement de l'émission L'écho des solutions que j'avais réalisé quelques mois auparavant avec Charles Benoît Hetzik, et où il répond de manière assez succincte mais efficace à cette question. Finalement, c'est quoi l'objectif du développement durable 17 et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un objectif dans lequel on met un peu tout, bref, un objectif fourre-tout?
Nous venons de faire une étude d'impact durant 5 ans sur cette ODD 17 en France. Et en fait, on en arrive avec 3 conclusions importantes. Le pourquoi et le comment, et ça répond précisément à votre question. D'abord, le pourquoi, parce que ça a 3 impacts très concrets. La performance des organisations, l'innovation et la confiance. Nous reviendrons sur ce point. Le pour faire quoi? Eh bien, finalement, si je pars de moi-même, c'est mon propre équilibre entre ma performance et ma contribution au bien commun. Le deuxième étage, c'est justement mon modèle socio-économique, comment je vais pouvoir l'hybrider avec d'autres. Le troisième étage de la fusée, c'est l'innovation sociétale, la capacité à inventer avec d'autres des sujets. Et le quatrième, et peut-être le plus essentiel, c'est celui du projet de territoire, c'est-à-dire comment on va faire ensemble. Autrement dit, c'est partir de moi vers le nous, ou du nous vers le moi, en fonction de qui nous sommes.
Et bien évidemment, Charles Benoît Hetzik a totalement raison quand il dit que tout se joue dans l'articulation du je et du nous. Ce qui me fait penser d'ailleurs à ce très mauvais jeu de mots, l'articulation du genou. Bon, il est tout de même important à souligner, et nous entrons enfin dans le vif du sujet, que la problématique essentielle du développement durable est dans le rôle que peuvent jouer les entreprises dans cette articulation du genou. Car bien évidemment, le monde économique est aussi partie prenante des alliances territoriales si on veut développer un territoire. Et Frédéric Dollet, délégué général de la Fondation RTE, le dit d'ailleurs très très bien, l'ODD 17 doit être ce catalyseur de l'ensemble des forces pour un développement durable et intégral.
Quand vous parlez d'énergie, quand vous parlez d'eau, quand vous parlez de santé, quand vous parlez de travail décent, quand vous parlez de production, comment voulez-vous faire ceci sans les entreprises? Et donc, il nous a semblé très intéressant de creuser ce concept et des expérimentations capitalisées déjà depuis longtemps par le rameau, cette question d'alliance entre acteurs aussi différents que des collectivités publiques, des associations, des collectifs de citoyens, des entreprises et j'ajouterais des universitaires. En France, nous avons quand même un secteur de l'enseignement supérieur absolument remarquable. Il travaille sur plein de sujets. J'estime que, notamment dans les domaines des sciences humaines, il pourrait être d'un concours extraordinaire pour faciliter et évaluer et faire évoluer ces coopérations entre acteurs.
Alors j'en reviens toujours à ma première question, mais les entreprises dans tout ça, dans cette articulation du genou, comment les entreprises font-elles pour intervenir? Parce que si on a bien compris que à tous on peut tout, hein, qu'un territoire selon l'objectif développement durable 17 doit se développer au travers des alliances avec le monde associatif, le monde économique, le monde académique, reste quand même que Frédéric Dollet n'a toujours pas répondu à ma question de pourquoi il est difficile d'intégrer les entreprises dans ce dispositif.
Il faut reconnaître qu'assez tôt, j'ai identifié qu'il ne nous serait pas facile de faire venir dans nos réflexions des entreprises de petite taille. Et c'est toujours plus difficile de faire venir des entreprises de petite taille que des grandes.
Pourquoi ?
Mais parce que, et ça a été dit tout à l'heure, ces entreprises font de la responsabilité sociale d'entreprise sans le savoir. Ou même quand elles le savent, sans vouloir le dire, ce qui est encore un peu différent par une espèce de discrétion et d'humilité qui les honore, mais qui fait qu'on ne sait pas si on peut compter sur elles pour tel ou tel projet d'intérêt général dans lequel elles auraient toute leur place. N'oublions pas que les alliances, ça ne veut pas dire qu'on confond tout le monde. La puissance publique reste dans ses compétences, le tissu associatif apporte ce qu'il sait faire, et les entreprises apportent beaucoup, et pas seulement, par exemple, de l'argent. Une des craintes qu'ont beaucoup de PME, c'est qu'on ne les considère que sous l'angle du chèque qu'elles pourront faire pour le projet associatif d'intérêt général auquel elles collaboreront. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un peu de carburant, mais c'est très important aussi qu'elles puissent éventuellement proposer des compétences humaines, voire un conseil, puisqu'elles ont des savoir-faire juridiques, économiques, gestion de projet, que beaucoup d'associations n'ont pas ou pas suffisamment. Donc elles ont vraiment beaucoup à apporter. Et puis elles ont apporté ce qu'elles sont, c'est-à-dire un lieu de production, un lieu de production collectif. Et je suis assez frappé qu'aujourd'hui, les Français, dans leur très très grande majorité, reconnaissent le rôle très positif des entreprises en tant que c'est une des formes d'action collective dont tout le monde se dit que si elle était mise au service de l'intérêt général, elle serait sans doute beaucoup plus efficace que d'autres modes d'intervention qui sont imaginés et qui ne verront d'ailleurs pas le jour parce qu'ils sont trop coûteux ou trop inefficaces.
Et Frédéric Delay a parfaitement raison. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas conscience qu'elles font du développement territorial, qu'elles sont intégrées à des alliances. Elles font simplement ce dont elles ont besoin pour permettre à leurs entreprises de perdurer. Et on sait aujourd'hui combien la RSE est importante à la fois pour permettre aux entreprises d'aborder des marchés publics qui sont de plus en plus demandeurs de critères de responsabilité sociale, économique et environnementale, et en même temps pour recruter, parce que aujourd'hui on sait bien que ce ne sont plus les entreprises qui recrutent de nouveaux talents, mais ce sont ces nouveaux talents qui recrutent des entreprises. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui d'ailleurs du CV employeur. Comment faire que le CV d'une entreprise soit suffisamment attractif pour aller chercher de nouveaux collaborateurs? Alors, quand les entreprises s'engagent sur un territoire, elles ne le font pas de manière consciente. Elles le font parce qu'elles ont un besoin et que ce besoin, parfois, elles ne le trouvent pas. Et un peu comme les fourmis, eh bien, elles se regroupent. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le collectif d'entreprises Livardois-Forez qui se regroupe en 2013 pour pouvoir répondre à des besoins de territoire.
En 2013, ces 9 chefs d'entreprise qui se sont réunis sur le bassin du Livradois-Forez pour un problème d'attractivité pour le travail du conjoint et de la conjointe. À la base, je ne sais pas si vous connaissez bien le bassin d'Ambert et plus largement, il y a de belles entreprises entre Thiers et Ambert, bref. Et il y avait le problème de l'attractivité pour maintenir les couples avec le conjoint et la conjointe. Donc on s'est réunis pour créer un club en 2013 qui aujourd'hui compte 55 entreprises adhérentes, de la Chaise Dieu jusque sur Courpierre. Et on a développé d'autres besoins en fonction des entreprises, mais à la base c'était pour combler la problématique. On n'a pas tout réglé, mais on travaille fortement sur l'attractivité. À la base, on avait fait de la mutualisation pour les entreprises au niveau de la formation. On avait fait de l'accompagnement pour faire progresser des candidats, du moins des employés en niveau CAP jusqu'au bac pro, en partenariat avec les Greta, Plateau Technique, Issoire et même l'Académie à Clermont. Après c'était très chronophage et puis on n'avait pas suffisamment de renouvellement de vivier sur notre territoire et donc on a un petit peu arrêté. Mais là aujourd'hui on se concentre surtout sur on est assez proche de notre réseau politique pour essayer de travailler avec eux pour construire ensemble une amélioration de notre territoire au niveau de la réserve foncière, au niveau du logement, de la santé, parce qu'on est sur notre territoire, la santé c'est très compliqué. Donc on promouvoit beaucoup avec la sous-préfecture et la Chambre des commerces. Parce que, par exemple, on a lancé récemment pour la première année un job dating avec le festival d'Ambert. Et ça a permis à certaines entreprises de recruter, ou du moins d'avoir des contacts, de profils qui viennent vraiment de l'extérieur, qui ne sont pas du territoire Livradois-Forez, mais plus largement sur la région Saint-Étienne, Clermont, Lyon et plus loin. On fait aussi la journée du conjoint et de la conjointe sur les nouveaux arrivants au niveau du territoire pour promouvoir. On est sur le point de lancer une crèche inter-entreprise qui va démarrer en septembre 2023. Donc ça a été un an de travail. On a trouvé un partenaire qui va la gérer, qui va nous accompagner. Et nous, on était là pour la cohésion des entreprises et puis lancer le projet, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce qu'il n'y a pas assez de place en crèche. Et donc, du coup, les profils restent pas ou sont bloqués.
Ok, là, on voit bien avec le président de cette association d'entreprises Livardois-Forez comment l'entreprise, finalement, crée un collectif parce qu'elle a un besoin sur un territoire. Des associations de ce type-là, vous en avez plusieurs sur des territoires. Vous avez bien évidemment tous les groupes qui naviguent autour des CCI, mais vous avez aussi le Centre des jeunes dirigeants, les jeunes chambres économiques, les groupes APM. Bref, tous ces lieux où l'entreprise se retrouve pour pouvoir mieux performer, pour pouvoir être plus attractive. Mais la question qui se pose et à laquelle aujourd'hui on n'a pas forcément de grandes réponses, c'est comment se créent des liens et des articulations entre ces clubs d'entreprise et un territoire. Et c'est intéressant parce qu'au niveau national a été créé un groupe, un laboratoire d'observation de la RSE qui s'appelle l'ORS et qui justement a permis de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, les grands groupes, les TPE, les PME, les syndicats, les corps intermédiaires, pour observer comment sur un territoire ces entreprises, ces articulations pouvaient se faire au bénéfice de tous. Et Brigitte Forgevielle, qui représente l'ORS dans le groupe de travail Entreprises et Territoires, revient sur cette nécessité d'un dialogue entre toutes les entreprises de toutes tailles différentes.
La RSE, on en parle tous les jours, et donc cet observatoire, c'est vraiment une organisation multipartie prenante qui rassemble une centaine de membres de tout secteur d'activité, aussi bien des multinationales que des petites entreprises, des associations comme le Rameau, des fédérations syndicales, avec un objectif de travailler sur la RSE et la transition juste et solidaire. Voilà, c'est le but de l'ORS. Donc quand l'ORS s'est engagé avec le Rameau, ça fait très longtemps, et c'est vraiment sur cet ancrage territorial pour les entreprises qui est vraiment une question de crédibilité, d'abord. On ne peut pas être en suspension sur un territoire. C'est également la légitimité de l'entreprise face à sa responsabilité. Voilà, on sait, toutes les entreprises ont un impact sur le territoire, positif, négatif, et c'est un devoir de s'ancrer avec les acteurs locaux. Et donc, ce groupe de travail a permis de faire une interconnaissance entre tous ces milieux. Deuxièmement, de mieux se comprendre. On parle parfois des langages un peu ésotériques par branche d'activité ou structure. Donc c'est vraiment pour créer cette relation de confiance. Et puis, ce dialogue a permis de dresser un état des lieux de pratique tout à fait intéressante.
Et Brigitte Forgevielle pose la bonne question. La place des grands groupes dans un territoire, comment est-ce que ces grands groupes peuvent ne pas arriver tels des mastodontes sur un territoire et venir écraser tout ce qui se fait déjà du poids de la découverte de leur vérité toute faite? Et Brigitte Forgevielle est la mieux placée puisqu'elle travaille à la direction des relations internationales et de la concertation d'EDF, qu'elle participe au groupe de travail Entreprises et Territoires. Et la question se pose: comment EDF s'implique dans un territoire à la fois pour préserver le tissu économique des TPE-PME locales, mais aussi permettre à EDF de continuer à développer des marchés en étant à la fois responsable sur le plan économique, sur le plan environnemental, sans pour autant faire du greenwashing? Un équilibre difficile à trouver dans lequel EDF semble sortir son épingle du jeu assez aisément.
pour un groupe comme EDF, l'adaptation au territoire est essentielle parce qu'on est tous, toutes les entreprises et je pense les organisations, quelles qu'elles soient, sont challengées par les acteurs locaux. Et donc, il faut qu'on s'implique. Et c'est vraiment être reconnu pour nous comme un acteur industriel responsable. On fait partie intégrante des catalyseurs du développement économique du territoire. On a créé il y a maintenant plus de 10 ans des agences qui s'appellent Une rivière, un territoire auprès des acteurs d'EDF hydraulique. La première est née dans le Massif central, voilà. Elle est née en Aveyron avec des enjeux de renouvellement de concessions de barrages et d'exploitation hydraulique avec le but de développer et contribuer à ce développement de l'emploi et du dynamisme dans les vallées. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement caritatif, c'est aussi parce qu'on a des salariés qui travaillent dans ces vallées et que c'est important qu'il y ait ce dynamisme pour les faire venir travailler dans ces vallées. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'idée, c'était de mobiliser les acteurs locaux pour qu'ils puissent répondre à nos appels d'offres. EDF est un groupe international. Quand il fait un appel d'offres, ben souvent, c'est des gros marchés. Et donc, il faut être labellisé, habilité avec un certain nombre de certifications. Et donc, cette agence Une rivière, un territoire accompagne des PME pour qu'elles puissent répondre à nos appels d'offres. Et troisième élément, c'est travailler avec les acteurs locaux pour essayer de développer un certain nombre d'autres activités et donc on a créé à cet effet un fonds de compensation qui aide des entreprises et je vais vous citer une entreprise à Rodez qui a été moi que j'ai visité il y a maintenant plus de 8 ans qui fabrique, comme on est dans une salle de concert, tous les fauteuils de cinéma, voilà, et qui à la barre du tribunal. Les salariés l'ont reprise. Il y avait 20 salariés. Aujourd'hui, il y en a 70. Voilà. On a accompagné cette entreprise depuis le début pour les aider à se développer, les aider à avoir des marchés. Par exemple, dans les centres de production d'énergie nucléaire ou dans les grands barrages, il y a des salles d'accueil. Eh ben, on a passé un marché avec eux pour avoir ces fauteuils de, ça s'appelle ITA Mooling et qui est à Rodez. Voilà. Donc l'exemple de là, le catalyseur, il était important pour nous, pour ce développement économique. Les 70 emplois aujourd'hui et les 6 millions de chiffres d'affaires, ben, c'est important pour la région, c'est important pour une entreprise comme EDF, parce que le développement économique, c'est le développement d'une entreprise comme la nôtre. Voilà, donc c'est l'accompagnement, la boucle est bouclée et on continue à participer à ce développement de projets locaux.
Ok, tout ça c'est très bien, mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment on peut avoir un vrai lien entre le territoire et les PME. Alors je suis allé voir Luc Bellière. Luc Bellière, c'est un entrepreneur du territoire de Montargis, rien à voir avec le territoire clermontois, mais son principe, son modèle est intéressant parce qu'il démontre comment à tous on peut tout, comment un territoire peut fédérer autour de lui l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des parties prenantes économiques, académiques, des PME, des TPE, des grands groupes. Et Luc Bellière nous rappelle que finalement, à la fois, ça pouvait sembler complexe et en même temps, ça n'a pas été si difficile que ça.
Quand on parle RSE, on entend souvent, on comprend les entreprises qui sont assez grosses pour avoir des directions RSE. Mais la réalité, c'est que la RSE, elle est présente sur le territoire. À quel point elle est beaucoup plus présente et elle est vécue au quotidien sur les territoires, donc dans les PME, et pas simplement dans ces grandes directions de grandes entreprises qui parfois, et c'est un peu le ressort du groupe de travail, parfois ont du mal à savoir comment aller. Ils ont des politiques, ils ont des envies, mais comment aller appliquer leur vocation sur le terrain, à qui s'adresser, comment être efficace, enfin. C'est vraiment la difficulté. Or, les PME, bien souvent, si elles n'ont pas de direction RSE, parce que c'est souvent un des dirigeants hein, qui se prend voilà, parce qu'il a des liens, parfois avec un club sportif, parfois avec une association, parfois, et que la RSE, elle rentre dans l'entreprise, elle se diffuse, elle infuse, elle se partage au sein même de l'entreprise, et ça donne des petits bijoux locaux, parfois, qui catalysent énormément de volonté sur le territoire. Et ça, c'est des choses au niveau national, dans notre pays qui est très centralisé, qu'on a tendance à négliger, et c'est bien dommage. C'est pour ça que cette étude, et ce que la fondation RTE a lancé, et me semble-t-il, avec le Rameau, est très important, c'est justement de mettre en valeur toutes ces jeunes pousses du territoire, que si on n'y prend pas, si on n'y fait pas attention, excusez-moi, il faut que je fasse attention à mon langage, en arrivant avec des grands appels d'offres nationaux, avec des têtes de pont et sur le territoire, on va les écraser. Et on va les écraser avec des projets qui ne seront pas enracinés. Donc c'est vraiment c'est vraiment l'enjeu un peu de ce groupe de travail, de se dire comment est-ce qu'on peut à la fois faire des liens de RSE entre les grands groupes et les PME qui sont déjà sur le territoire. Et les PME qui sont sur le territoire, elles ont énormément de variations d'action. Comme tu as montré, hein, les quatre grandes typologies sont effectivement très pertinentes, mais le point d'entrée est souvent les deux extrêmes, c'est-à-dire le mécénat ou la pratique responsable. Et c'est parce que dans ces deux partenariats, que ce soit le mécénat ou la pratique responsable, chaque partie, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'association ou la collectivité, va faire le jeu de la confiance, donc le jeu du don d'abord. On donne et on ne sait pas si on va recevoir, mais on donne d'abord. Et on voit et on apprend à se faire confiance. Et c'est là que, tout d'un coup, la sauce, elle peut prendre. Et au-delà de dire on donne de l'argent et on ne se soucie pas de ce que ça va donner, que ce soit pour la collectivité pour résoudre un problème de territoire ou que ce soit l'entreprise, voilà. S'il y a du don, mais pas uniquement financier, hein, du don en temps, c'est vraiment quelque chose qui peut faire changer les choses. Alors, juste un petit exemple très personnel. Donc, j'ai fondé une association qui s'appelle Percé3C, qui est pour l'engagement à la RSE, l'économie circulaire et coopérative, sur donc, le bassin du Gâtinais-Montargois, c'est l'est du Loiret, qui déborde un petit peu sur Lyon et la Seine-et-Marne. Et cette association-là a vocation d'aider les entreprises à se convertir. Et puis le fait est que, parce que sur ce territoire-là, moi j'ai une action, j'ai présidé le conseil de développement de l'agglomération de Montargis, qui est devenu le conseil de développement du PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural, donc Gâtinais-Montargois, oui, parce que là, on est au PETR Grand Clermont, c'est ça. Donc, voilà, vous connaissez bien. Et eh bien, j'étais déjà avec tous les acteurs locaux. On a des politiques de mécénat aussi. Hein, on redistribue, au sein du groupe, on redistribue 0,5% de notre chiffre d'affaires. Et eh bien, quand il y a eu un appel d'offres PTCE, on a juste appelé, tout le monde est venu. Et on a créé, trois semaines, on a créé un PTCE, on a postulé et on a été élu par le ministère. Et on a aujourd'hui énormément de fiches projets où ce PTCE a vocation, c'est de faire de l'ingénierie d'alliance, justement, de mettre tout le monde en lien. Donc au final, dans Percé3C, sont adhérents aussi des collectivités, des associations, des structures d'insertion par l'activité économique, hein, puisque le PTCE, on l'a appelé CIEL, circularité, inclusion et économie locale.
Alors on le voit bien, si l'entreprise fait un peu de la RSE comme Monsieur Jourdain fait de la prose, il est certain que le monde de l'entreprise sait toujours rebondir sur ses pieds, ne serait-ce que pour faire pérenniser ses modèles économiques et pérenniser les emplois sur un territoire. Et de ce fait, et on le verra très certainement plus tard, les territoires eux-mêmes sont conscients qu'il est important de pérenniser des emplois si on ne veut pas que les territoires meurent. Mais ces territoires sont aussi rempli de fragilité, car qui dit diversité des entreprises, diversité économique, dit aussi diversité des populations. Et il est un secteur de l'économie à part entière, qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui œuvre aussi sur les territoires. Elle est donc à la marge de l'entreprise traditionnelle, de l'ONG, du monde associatif. Et très souvent, on s'aperçoit que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire partent d'une analyse de terrain et à partir de cette analyse de terrain vont développer une forme d'économie pour venir répondre à un certain nombre de fragilités. C'est ce à quoi répond un des acteurs, il y en a plusieurs sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Coco Shaker, mais c'est ce à quoi répond Ronalpia sur son territoire en accompagnant des entrepreneurs sociaux.
Notre baseline chez Ronalpia, c'est entreprendre pour les fragilités. Et aujourd'hui, on est convaincu que face à ces fragilités, le changement va partir du terrain, des initiatives qui sont présentes sur le terrain, ces initiatives qui sont portées par des personnes qui ont une vision, par des organisations et par des institutions qui ont eu cette vision audacieuse, ambitieuse et intrépide au service des besoins et des fragilités de leur territoire. Et on est convaincu également que ces initiatives qui sont portées par ceux qu'on accompagne chez nous, les entrepreneurs sociaux, elles se nourrissent des coopérations entre différentes typologies d'acteurs institutionnels, privés, associatifs, quel que soit leur secteur d'activité, leur statut ou encore les approches qu'elles peuvent porter dans leur démarche. Donc voilà, pour faire simple sur nos convictions et notre rôle du coup chez Ronalpia, c'est à la fois de comprendre les besoins, les fragilités des territoires sur lesquels on a implanté, de détecter et de sélectionner des initiatives qui répondent à ces enjeux sociaux et environnementaux de nos territoires et enfin de les accompagner au moment clé de leur développement, à la fois sur des enjeux d'émergence, comment on fait naître ces initiatives qui répondent à ces enjeux sociaux et environnementaux, et aussi comment demain on les accompagne dans leur phase de développement, de croissance, pour qu'elles prennent plus d'ampleur en fait, au milieu des acteurs socio-économiques de nos territoires. Et enfin, dernier rôle, c'est celui de l'accueil, d'accueillir ces projets d'innovation sociale, de créer et de fédérer des réseaux de coopération, parce qu'on est convaincu que ces initiatives, elles se développeront pas seules et elles ont besoin de coopérer avec différentes typologies d'acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, publics, économiques de nos territoires sur lesquels on est présent. Là, sur l'année 2022, c'est presque 150 projets qui ont été accompagnés sur une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour qui ont des initiatives qui répondent aux enjeux de mobilité, d'alimentation, de santé, d'accompagnement à la fin de vie, enfin tous ces enjeux que rencontrent les citoyens et les acteurs de nos territoires. C'est 12 programmes d'accompagnement qui ont été délivrés gratuitement. Donc ça, c'est notre modèle économique. On accompagne gratuitement les entreprises sociales de nos territoires. Et pour ça, on va chercher justement des leviers de financement auprès des acteurs publics et privés de nos territoires. Et enfin, c'est aussi des enjeux de sensibilisation à la fois auprès des porteurs de projets, mais plus largement auprès de nos partenaires et qui interviennent justement à la fois dans l'accompagnement et comment faire pour que ces projets prennent la place qu'ils doivent prendre sur le territoire, sur les enjeux de mobilité par exemple. À l'échelle de la métropole de Lyon, on travaille avec le département de la mobilité pour que les initiatives qu'on accompagne sur ces enjeux puissent émerger et se développer à l'échelle de la métropole. On intervient à la fois en milieu métropolitain, périurbain, ruraux, sur ce rôle de catalyse territoriale, donc autant en Nord-Ardèche, territoire très rural, que sur la grande métropole de Lyon, grande métropole de la région, et sur lesquelles on a des approches qui sont différentes aussi en fonction de l'écosystème qui est présent localement. On travaille avec les collectivités, les villes, les techniciens, notamment des collectivités territoriales qui ont cette connaissance fine aussi des besoins et des enjeux locaux. Et du coup, tout ça, on ne le fait pas seul. C'est pas Ronalpia avec son petit bâton de pèlerin, c'est pas les entrepreneurs sociaux non plus tout seuls. Et on le fait avec cette diversité de partenaires que vous pouvez voir, tous les petits logos avec deux qui sont représentés aujourd'hui, la Fondation RTE et le Rameau, évidemment, qui sont partenaires de Ronalpia depuis quelques années maintenant. Donc c'est près de 17 collectivités territoriales avec lesquelles on travaille aujourd'hui, à différentes échelles, du département à la ville rurale. Et puis des acteurs privés, dernier partenaire qui nous a rejoint, c'est Equibio en Nord-Ardèche, justement, qui fait de la distribution de produits bio et du coup dont le siège est en Ardèche et qui veut justement fertiliser son territoire sur les enjeux d'innovation et que peuvent rencontrer à la fois les salariés d'Equibio, mais aussi sur des défis de territoire qu'ils ont identifiés. Et on travaille avec eux et les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne localement à essayer de relever ces défis. C'est grand challenge que rencontrent les citoyens et les territoires sur lesquels nous sommes présents.
Alors c'est bien, depuis le début de ce podcast, on évoque la place des entreprises, le fait qu'elles ne savent pas qu'elles font de la RSE, qu'elles ont toute leur place à prendre, que c'est important d'avoir des coopérations entre tous les acteurs du territoire. Mais globalement, que font les territoires? Qui sont-ils? Quels sont leurs objectifs? Quels sont leurs enjeux? Et sur le territoire du Massif central, eh bien, il est très clair, aujourd'hui, il y a une révision du SCOT. Le SCOT, c'est ce schéma de coordination territoriale que porte Bruno Valadier, président du Grand Clermont. Et avec lui, justement, je lui ai posé les questions suivantes de savoir comment on construisait un SCOT, comment on construisait un schéma de coopération, d'équilibre territorial. Et on le voit bien, les enjeux des territoires ne sont pas forcément toujours les mêmes que les enjeux des entreprises, particulièrement sur la question du temps.
Qu'est-ce que c'est que ce schéma de cohérence et d'orientation territoriale? C'est quelque chose de précieux, dans le sens où on va pouvoir, conformément à ce qui a été évoqué par beaucoup d'entre vous tout de suite au niveau des entreprises, avoir une vision non seulement, comme l'ont la plupart des entrepreneurs, sur le développement à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans au grand maximum, comme la plupart des politiques publiques l'ont également sur la même période. Là, on va se projeter sur une durée de 30 ans. Et le risque, bien sûr, c'est la planification rigide, immuable, dans laquelle on est sur des rails et on va pendant 30 ans essayer d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé initialement, et sans agilité, sans adaptation aux nouveaux environnements, aux accidents qui peuvent se produire et aux évolutions. Donc on a commencé de travailler au sein de la commission qui est en charge de cette révision du SCOT. On verra un petit peu le programme tel qu'il se dessine. Mais on a commencé de travailler en se disant quels sont les facteurs d'attractivité principaux, c'est de se dire que quelque part, le sang important, c'est toujours les employés, les salariés, les employeurs, c'est les forces vives de la structure dont il faut favoriser l'arrivée. Et on constate que pour les entreprises, ça vient d'être dit, la difficulté, c'est de trouver des employés. Donc c'est bien beau de construire des choses magnifiques, mais si on a des entreprises qui ne trouvent pas de salariés, on ne va pas pouvoir construire un projet de territoire qui tienne la route. Et on en revient, moi j'ai l'impression de faire un grand saut en arrière, dans lequel on a une petite entreprise locale de pneumatiques, certains doivent voir de qui on parle, qui a construit des maisons, qui a construit des lycées, qui a construit des organismes de formation, qui a construit des cliniques, qui a fait venir des médecins, qui a développé l'éducation, qui a construit des terrains de sport, qui a construit des centres de loisirs, une petite équipe de rugby, etc. etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui aujourd'hui nous confirme qu'on a un intérêt commun, les entreprises, le public, à savoir où on va à 30 ans, pour être capable de construire des choses qui vont nous permettre d'arriver sur le but qu'on s'est fixé. C'est important, alors je reprendrai de façon approximative un dicton qui dit « si on ne sait pas où on va, le chemin n'a pas d'importance, on est sûr d'y arriver ». Là, on essaye de faire l'inverse, c'est on va se fixer un but, on va se fixer un chemin, et il est possible que le but se déplace un petit peu, il est possible que le chemin dévie à un moment, mais au moins que collectivement, on soit capable de construire un projet dans lequel on sait qu'on va là. La chance qu'on a en Auvergne, c'est qu'on reste un territoire attractif. Donc au moment où la France va perdre de la population, dans 15 ans, c'est demain, le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, continuera d'attirer encore des populations pour encore quelques années, avant de faire comme tout le monde, perdre de la population. Donc l'idée de construire des choses, c'est bien, mais il faut aussi être capable de se projeter beaucoup plus loin, avec toutes ces étapes-là qui vont nous permettre de dire jusqu'où on va travailler notre projection SCOT sur une vision à 30 ans, de façon à partir de 2024, être capable de co-construire. Et c'est là tout le travail qu'on aura à faire ensemble avec toutes les forces vives, qu'on a une convergence d'intérêts entre la partie politique et la partie entreprise. Si on n'a pas de citoyens, si on ne sont pas bien dans notre territoire, les entreprises n'auront pas de bras pour travailler. C'est ces politiques-là qu'il faut qu'on co-construise tous ensemble. Donc on a parlé bien sûr de la partie politique, des entreprises, mais également des citoyens, c'est le Conseil de développement, et de toutes les forces vives qui collaboreront, que ce soit les chambres consulaires, etc. Tout le monde doit être capable de venir apporter sa pierre à l'édifice, et ça, c'est 2024-2025. Pour qu'on vous mette le point d'orgue final en 2026, à un projet qui va faire de Clermont plus que le centre de la France géographique, l'étoile qui brille au centre de la France.
Bon, alors tout ça, c'est très, très poétique, l'étoile qui brille au centre de la France, les grandes décisions politiques à 30 ans. Mais ce que nous, on a envie de savoir, c'est comment tout ça concrètement s'organise. Et Jérôme Preuze, qui est le directeur du développement, nous évoque un petit peu ce plan alimentaire territorial et comment justement l'écriture d'un plan alimentaire territorial va permettre des collaborations entre les territoires, entre le monde rural et le monde urbain, puisqu'on pourrait aller de manière assez simplissime dire que la ruralité produit ce que l'urbanité mange. Eh bien, comment justement à la hauteur du territoire de Clermont-Ferrand, d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce plan alimentaire territorial va permettre des collaborations, des coopérations? Comment est-ce que les pouvoirs publics s'emparent de la problématique pour créer finalement de l'emploi, pour créer de la dynamique économique et faire que finalement il y ait une forme d'autonomie et d'équilibre territorial entre le monde rural et le monde urbain?
Alors notre première, je dirais, collaboration qui fait de ce projet alimentaire territorial quelque chose d'un petit peu atypique, c'est qu'on le fait à deux, en commun, avec un parc naturel régional, qui est le parc naturel régional du Livradois-Forez. Alors vraiment, pour faire simple, le territoire rural, espace de production, et le territoire urbain, espace de consommation, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'était vraiment comment collaborer avec notre territoire rural autour de Clermont-Ferrand, de la métropole de Clermont-Ferrand. Après, au niveau de ce projet alimentaire territorial, on essaye vraiment de travailler avec tous les acteurs, c'est-à-dire à la fois, bon, bien évidemment, l'État, les structures agricoles, mais aussi les entreprises, les citoyens, les associations, les organismes de recherche, puisque nous avons un collectif de chercheurs qui est associé à notre projet alimentaire territorial. Donc on est vraiment dans cette, à la fois sur un mode collaboratif en termes géographiques, mais en termes d'acteurs. Donc évidemment, ça fait beaucoup de personnes et de structures associées. Donc voilà, c'est des exemples tout à fait modestes. Alors un des premiers exemples, c'est on avait constaté notamment dans le Livradois-Forez qu'on avait beaucoup de magasins de proximité, de petites épiceries, et en fait, ils ne travaillaient pas du tout avec les producteurs locaux. Donc on s'est un petit peu posé cette question et on a fait faire par deux stagiaires, alors sur plusieurs dizaines de magasins et de producteurs, des diagnostics, notamment des diagnostics de flux, c'est-à-dire des relations commerciales entre les producteurs locaux et les magasins de proximité. Et on s'est aperçu effectivement que c'était quand même très très faible, alors que certains sont à quelques kilomètres. Donc on a dû caractériser un petit peu les flux, les freins, les contraintes, etc. En fait, au cours de l'étude, il s'est avéré qu'on a eu des demandes pour simplement avoir des journées d'interconnaissance entre les producteurs et les magasins de proximité. Donc on a organisé plusieurs journées de rencontres qui finalement se sont transformées non seulement en journée d'interconnaissance, mais aussi en journée de relations commerciales, parce qu'il y a eu pas mal de conclusions de contrats commerciaux entre les producteurs locaux et les magasins de proximité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que du coup, en espace urbain, la ville de Clermont-Ferrand est venue nous voir. On a fait une sorte de transfert de technologie, on leur a expliqué comment ça s'était passé. Et en 2022, ils ont organisé exactement la même chose sur la ville de Clermont-Ferrand, avec les magasins de quartier et les producteurs locaux qu'il y avait autour de Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est une première expérience modeste, mais qui finalement montre bien qu'entre les entreprises du territoire, on peut arriver par de la collaboration à faire quand même certaines actions.
Voilà donc quelque chose d'intéressant, et on remarque bien comment dans la démarche du Grand Clermont, l'ensemble des parties prenantes sont concernées, et on voit pour la première fois peut-être un territoire ne pas s'adresser uniquement à une stratégie politique, territoriale, avec des objectifs qui sont hors sol, mais bien des objectifs avec des impacts qui sont construits, avec une volonté de développer le territoire au travers des entreprises, au bénéfice des populations actuelles et à venir. Mais tout cela ne peut fonctionner que si on arrive à faire travailler les personnes ensemble. Et l'une des questions que j'ai posées aussi à Bruno Valadier, c'était comment on construit cette confiance. Pour lui, d'ailleurs, la question ne peut être que si on est transparent les uns les autres.
Si on est capable de travailler en commun, de faire, et c'est ce qu'on a mis en place actuellement dans le cadre de la révision du SCOT, des réunions dans lesquelles il y a une petite trame qui est construite et diffusée à l'ensemble des acteurs politiques de chacun des quatre PCI, chaque PCI va pouvoir avoir la teneur de nos échanges et dire voilà dans quelle direction on est en train d'avancer, on construit du solide, si c'est validé, on passe à la marche d'après. Si ce n'est pas validé, on retravaille la marche avant qu'elle ne... Ce n'est pas la peine de construire un immeuble de 20 étages si les fondations ne sont pas solides. Donc on est en train de bâtir les fondations. Derrière, on va construire le premier étage et on s'appuiera sur ce premier étage pour monter les étages suivants.
Et pour Léo Pérez, chargé de mission territoire chez Coco Shaker et qui réalise d'ailleurs une thèse action dans cette structure de l'économie sociale et solidaire, il y a deux leviers essentiels pour créer de la confiance, à la fois s'insérer dans le temps long, mais aussi comprendre le territoire. Mais comment donc lever les leviers de la peur ? Et Luc Bélière a une vision très intéressante qui s'enracine d'ailleurs plutôt dans la pensée sociale chrétienne avec la notion de don et de gratuité. Chose étonnante dans la bouche d'un entrepreneur de parler de don et de gratuité.
C'est le don qui fait la solution, c'est-à-dire qu'on acquiert de la confiance parce que moi-même, depuis 20 ans, arrivé sur le territoire, j'ai commencé à donner du temps pour le territoire. Le conseil de développement, rencontrer les associations et j'ai acquis cette crédibilité. Et quand on a décidé, avec les structures d'insertion par l'activité économique, avec les associations de citoyens, de créer ce PTCE, eh bien, tout le monde est venu.
L'originalité, c'est que
c'est le premier PTCE qui est porté par une association d'entreprises dites classiques. Mm-hmm. Voilà,
quel est l'impact aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur les territoires ? Qu'est-ce qu'il a permis de co-réaliser sur le territoire ?
Eh bien, déjà, de faire travailler ensemble des structures qui ne se parlaient pas beaucoup, voire qui se jugeaient concurrentes les unes des autres. Et donc maintenant, on a des projets, notamment sur la collecte la réutilisation, le reformatage des équipements électroniques et puis après le recyclage éventuel, entre des structures complètement différentes comme je vous le disais, qui se parlaient pas beaucoup. Mmh. Où maintenant, on a des projets de formation d'entreprises qui cherchent à recruter, qui vont former directement dans les quartiers, sur des femmes isolées, à la couture par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment transformé. Plutôt que chacun travaille seul, chacun va garder son identité, mais on va créer de nouveaux projets. 1 plus 1 égale 3.
1 plus 1 égale 3, voilà donc tout le cœur finalement pour créer la confiance. C'est se dire qu'ensemble, on peut tout faire si on prend bien en compte d'abord une méthodologie en construisant la fusée dans le bon ordre, si on prend aussi le temps, c'est-à-dire le temps long pour concerter, pour se découvrir, pour lever les leviers de la peur, si on accepte aussi de donner et de pouvoir avoir une forme de gratuité dans les échanges. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore exploré, parce que c'est très bien de mettre autant de diversité autour de la table, encore faut-il se comprendre. Et Laurent Lély d'AgroParisTech, de la chaire Interaction, revient sur cette nécessité d'avoir le même langage et d'abord de découvrir peut-être que nous parlons de la même chose, mais pas forcément avec les mêmes mots. Parce qu'on oublie combien la dimension académique aussi est importante. Un territoire qui ne forme pas est un territoire qui meurt parce qu'il va aller à la recherche de talents extérieurs sans jamais créer de talents. Et Laurent Lély, qui est donc le directeur de cette chaire Interaction et qui intervient aussi en tant qu'enseignant à AgroParisTech, pose bien la question de comment on construit les compétences. Parce que si on veut apporter des solutions et des solutions rapides, eh bien, il faut avoir les compétences qui vont bien. Encore faut-il, et j'en reviens à ce que je disais il y a quelques instants, à la question du langage.
ce sur quoi on est confronté actuellement. On nous dit, la recherche sur les questions de territoire, vous avez besoin de nous éclairer très très vite sur ce qu'il faut faire pour améliorer la question de la gestion de l'eau, traiter la question de la qualité des sols. Il faut aller très très vite. Pour aller très très vite, il faut construire la maturation des compétences. Des compétences qui ne sont plus en silo et qui sont transversales. Tout le monde parle de transversalité, mais en réalité, comment on construit des compétences qui permettent d'aborder cette complexité, de résoudre des problèmes complexes et transversaux, ça prend du temps. Et donc nous, on pense que pour valoriser l'engagement des entreprises, il y a aussi construire, et vous l'avez dit à plusieurs moments dans la soirée, il faut construire des référentiels de dialogue communs, parler le même langage. Ou en tous les cas, derrière les mots qu'on utilise, qui peuvent être les mêmes, on n'y met pas forcément les mêmes choses. Et donc ce référentiel de dialogue, il est un préalable à la construction de la confiance. Combien de réunions publiques, combien de travaux de recherche ne sont pas bien compris parce que l'implicite des mots n'est pas celui qui permet d'engager le dialogue qui va permettre de résoudre un problème ou atténuer un conflit. Deuxième élément. Et le dernier élément, c'est, vous avez parlé de coopération, de qualité de vie aussi, j'aime beaucoup l'utilisation de ce terme, on essaie de travailler la question de la qualité globale d'un territoire. La qualité de vie, c'est un des aspects de la qualité d'un territoire. Et je pense que la coopération, c'est vraiment un cheminement qui doit travailler sur l'idée que nous n'avons pas, en tous les cas, à notre sens, du point de vue académique, nous n'avons pas aujourd'hui les réponses aux défis qui nous sont posés. Et il faut avoir l'honnêteté de dire que nous allons cheminer pour construire ensemble des réponses qui vont essayer de s'adapter à la résolution de ces défis-là. Et je pense que c'est très très difficile et c'est très risqué de dire ça. Et en même temps, si on veut vraiment construire des alliances qui soient durables, qui répondent aux objectifs des ODD, il faut accepter modestement de travailler progressivement à la résolution de ces questions-là et en acceptant, ça je le dis du point de vue du lecteur académique, de ne pas nous demander systématiquement d'avoir une réponse immédiate à poser sur un problème qui a une complexité qui est encore extrêmement difficile à appréhender.
Et on voit bien toute la complexité dans cette dernière intervention de Laurent Lély, de la construction des alliances sur un territoire. On est à la limite du génie horloger et de pouvoir mettre chacun des rouages en action pour permettre à l'ensemble du mouvement de fonctionner. Alors, faut-il être pessimiste? Faut-il être optimiste? Est-ce qu'on est face à quelque chose qui est de l'ordre d'une utopie? On va laisser le mot de la fin à Charles-Benoît Hetzig, qui nous redit combien le territoire est important et que ce qui est le plus important, peut-être dans tout ça, c'est l'envie pour le territoire de progresser.
On voit bien que réellement cet engagement de l'entreprise est multiforme et que quelque part, on a beaucoup de mal à le voir et finalement à le valoriser dans le sens, non pas nécessairement économique, même si c'est aussi économique, mais dans la construction du projet de territoire. C'est-à-dire finalement, on a du mal à intégrer l'entreprise dans une dimension qui n'est pas seulement celle de son mécénat, mais qui est vraiment celle de son cœur d'activité et comment son cœur d'activité peut entraîner toute une diversité d'actions qui sont vraiment liées. Et c'est cette réalité, finalement, réellement de l'impact sur l'intérêt général, de l'impact sur la co-construction, qui nous semble extrêmement important. Et on a été très heureux avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts de pouvoir vraiment constater que progressivement, cette diversité des formes d'engagement de l'entreprise, de la diversité des entreprises aussi, hein, de nos grandes entreprises à nos TPE, de nos TPE à nos grandes entreprises, étaient progressivement de plus en plus et de mieux en mieux intégrées aussi dans les politiques publiques comme des contributeurs à part entière de ces politiques publiques territoriales. Et c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de mettre en valeur la capacité de l'innovation citoyenne, du pouvoir d'agir des citoyens. On a l'habitude de dire combien les associations sont essentielles, incontournables dans notre pays pour pouvoir contribuer à réduire des fragilités, à inventer de nouveaux modèles. Mais on a plus de mal à reconnaître finalement la force de l'entreprise, non pas simplement pour ce qu'elle peut contribuer à faire à la marge, mais pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Et c'est vraiment là où on avait vraiment envie de montrer, et c'est tout le travail qui a été fait dans le groupe de travail qu'on a copiloté avec l'ORS, qu'on a la chance d'avoir une diversité d'entreprises en France, et en fait c'est une vraie richesse. La problématique de cette richesse, c'est qu'à 66%, elle est au niveau local, 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Or, comme en France, on a l'habitude de ne regarder que ce qui sort au niveau national, on a l'impression qu'elle n'existe pas, cette richesse.
Et ce que nous disent les statistiques qui ont été faites par le Rameau et les laboratoires de recherche, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a une véritable envie pour les territoires, pour les entreprises, de s'impliquer pour développer durablement et permettre, comme le soulignait Laurent Lély tout à l'heure, de faire accroître, de faire grandir la qualité de vie comprenant l'ensemble des parties prenantes d'un territoire, à savoir créer plus d'emplois, créer du bien-être au travail, mais aussi créer une envie de s'installer sur le territoire, d'être plus attractif, de permettre de bien manger, de bien se nourrir. Bref, une complexité que nous allons continuer à explorer dans Comment vas-tu bien la planète, en allant justement avec Luc Bellière creuser un petit peu cette expérimentation du PTCE du côté de Montargis. Ce sera un des prochains épisodes de ce podcast. Et puis on ira aussi à la rencontre de Laurent Lély pour mieux comprendre comment le corps académique peut porter et apporter sa pierre au développement d'un territoire, toujours dans cet esprit d'alliance. Et enfin, on ira à la rencontre de quelque chose qui est peut-être le premier résultat de cette grande réflexion posée déjà depuis une quinzaine d'années par le Rameau, qui est la Fondation Territoriale de Loire-Atlantique, qui a émergé en juillet 2022 et qui, au bout d'un an, commence déjà à avoir des résultats où l'ensemble des parties prenantes d'un territoire travaillent ensemble pour lutter contre les inégalités, qu'elles soient sociales et environnementales. Alors, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Comment vas-tu bien la planète. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. J'espère peut-être que l'on a réussi à faire émerger dans vos esprits une manière de faire alliance dans vos territoires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre mail comment vas-tu bien la planète tout attaché @gmail.com. Bonne écoute, à très bientôt, au revoir.
Hello, salut, comment ça va ?